BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour. Et il n'y a pas que le climat qui chauffe, il y a la dette aussi. L'INSEE vient de publier les comptes pour le premier trimestre et annonce une hausse de 75 milliards d'euros de la dette au premier trimestre. La dette qui atteint désormais 117,5% du PIB. Et oui, alerte canicule sur les comptes, alerte canicule sur l'État. La France n'est toujours pas prête face aux vagues de chaleur. Alors le gouvernement, lui, s'agite, multiplie les réunions de crise. Mais après 20 ans d'alerte et une accumulation de plans, de lois, les écoles, les transports et les logements restent mal adaptés. Alors manque d'argent, absence de priorité ou impuissance publique, ce sera le premier thème des débats aujourd'hui. Autre débat, la taxe Zuckmann, elle est censée rapporter jusqu'à 25 milliards d'euros. Eh bien, une étude patronale ramène ce chiffre à 5,5 milliards seulement et affirme qu'elle pourrait même coûter de l'argent, cette taxe Zuckmann, à l'État. Alors, qui faut-il croire? On va en discuter ensemble. Et puis, faut-il ensuite faire davantage payer les étudiants? Une licence coûte 9000 euros à la collectivité contre 178 euros d'inscription. C'est le prix d'un abonnement annuel à Netflix, à peu près. Alors, peut-on sauver les universités sans remettre en cause leur quasi-gratuité? Ce sera le troisième débat aujourd'hui. Et puis enfin, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se donnent rendez-vous aujourd'hui à Antibes pour un sommet franco-italien. Alors que le couple franco-allemand s'essouffle, la France et l'Italie peuvent-elles devenir le nouveau moteur de l'Europe? Ce sera le dernier thème des experts aujourd'hui. Voilà pour le programme, il est 9h passé de 32 minutes, vous êtes sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Laurent Moisson. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
Entrepreneur et investisseur, cofondateur des Forces Françaises de l'Industrie. À vos côtés, Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, rebonjour. On ne présente plus, éditorialiste BFM Business. Et Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Je voulais qu'on commence par un petit mot. L'INSEE vient de publier la dette pour le premier trimestre. Elle grimpe à 3536 milliards d'euros, cette dette. C'est 75 milliards de plus en 3 mois seulement. On atteint désormais 117,5 points de PIB, Jean-Marc.
Oui, alors, il n'y a pas de surprise. À partir du moment où l'État est en déficit, forcément, sa dette augmente. Les gens qui disent « j'ai baissé la dette », non, personne n'a réduit la dette tant que le budget n'est pas équilibré. Donc, la dette augmente en point de PIB, elle augmente plus ou moins, mais la dette continue à augmenter.
Là, elle augmente beaucoup, comme les températures.
Alors, ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est quand même 75 milliards en 3 mois, alors que le déficit voté, c'est un peu plus de 150 milliards. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a fait pratiquement tout le chemin, la moitié du chemin de l'année. Donc, ça, c'est assez inquiétant. Sur le fait qu'on peut s'interroger sur la stratégie, sur l'évolution des rentrées fiscales, ou si ce n'est pas un indicateur d'une détérioration de l'économie qui va faire que le déficit constaté sera largement au-dessus du déficit envisagé. Je rappelle quand même qu'en 92-93, c'était le creusement très rapide du déficit budgétaire au mois de septembre-octobre qui avait alerté quand même les conjoncturistes sur la récession qui s'annonçait en 1993. Alors, par rapport à ça, juste une autre remarque, qui est une remarque un peu à la fois d'actualité et sans actualité, c'est que Alan Greenspan, qui nous a quittés
cette semaine,
le 22 juin, avait théorisé, il y a deux policy mix possibles. Il y a celui qu'il y avait avant que je sois au pouvoir, qui était Volcker-Reagan, c'est-à-dire une politique monétaire très restrictive, avec des conséquences négatives sur la croissance, et donc une politique budgétaire très expansionniste. Donc, on faisait beaucoup de déficits budgétaires avec des taux d'intérêt très élevés. Moi, je me suis mis d'accord avec Clinton pour qu'on fasse des excédents budgétaires avec des taux d'intérêt très bas pour favoriser l'investissement privé. Qu'est-ce qui a bien marché? C'est politique budgétaire restrictive, politique monétaire accommodante. Alors, je pense qu'on devrait réfléchir à cet héritage de Greenspan.
On fait l'inverse aujourd'hui, hein.
Parce qu'on fait exactement l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait les politiques budgétaires, on n'arrête pas de faire du déficit, et on a des banques centrales qui n'arrêtent pas de nous menacer de augmenter leur taux d'intérêt. Donc, j'aimerais que, après les hommages rendus à Greenspan, on réfléchisse à l'action de Greenspan.
Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait le bilan, quels moyens on met en place pour essayer de corriger tout ça?
Voilà, il avait fait des choses qui n'étaient pas si idiotes que ça.
Ça tombe bien, Ludovic. Il y a un comité d'alerte des finances publiques qui doit arriver dans les prochains jours. Ça nous fait un bon teasing, là.
Ce que dit Jean-Marc, c'est le rythme à lequel on brûle le kérosène là est absolument pas adapté. Donc ça, c'est le premier constat. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est le calendrier, parce que je rappelle là qu'on est en train de parler des chiffres du premier trimestre.
Oui.
C'est-à-dire que l'Iran commence le 28 février, donc il y a juste le mois de mars. On a un deuxième trimestre sur lequel là on va avoir l'effet plein, notamment sur l'énergie et pas mal de choses qui se sont passées. Donc là, c'est
on risque d'exploser les compteurs, quoi, si je comprends bien.
On risque vraiment d'exploser les compteurs sur cette année.
Oui, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a une cyclicité dans l'année aussi de la dette, c'est-à-dire qu'elle monte en général très fort sur les 6 premiers mois de l'année parce que l'Agence France Trésor, qui est en charge de la gestion de la dette, émet beaucoup en début d'année pour s'assurer que tout sera bien placé. Et ça diminue en fin d'année normalement.
L'Agence France Trésor anticipe une hausse des taux d'intérêt, donc ils se font un peu de la trésorerie.
Accessoirement, avant que les taux montent, effectivement.
Plus cher l'endettement.
Oui, parce que comment l'entrepreneur Laurent Moisson voit ces chiffres ?
Oh bah écoutez, c'est un petit peu, on va parler, je pense, de la canicule.
Oui.
C'est un peu pareil.
On
annonce des choses depuis des années et tout d'un coup, on fait un comité de crise parce que ça arrive. Mais vous écoutez les entrepreneurs. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que la richesse était créée par les entreprises. Ils vous disent que ça va pas, que en fait, leur activité est en contraction parce que quand vous regardez qu'est-ce qui fait la croissance ou la décroissance d'ailleurs, puisque on est probablement autour de ça, d'un pays, c'est la production des entreprises et après qui peut être compensée ou pas par les dépenses de l'État. Donc, quand vous regardez ce qui se passe depuis des années, c'est que les entreprises n'y arrivent plus, sont probablement d'ailleurs en décroissance depuis à peu près 2 ans, en récession, enfin j'allais dire le système économique privé est en récession depuis 2 ans, et on compense ça par des dépenses publiques qui explosent tout. Donc, si vous voulez afficher une santé économique pas trop dégradée et que vous ne faites rien pour que le moral des patrons fasse qu'ils investissent plus, qu'ils embauchent plus et que les consommateurs consomment plus, et ben à la fin, vous faites de la planche à billets, vous dépensez beaucoup d'argent et vous êtes repris par ce système qu'on est en train de décrire.
Et ben voilà, ce que disait Jean-Marc, un peu de rigueur ne ferait pas de mal. J'ai oublié de présenter votre dernier ouvrage, Laurent Moisson, « La France s'en va en guerre ». En oubliant ses munitions, c'est publié aux éditions Déviation, les Déviations, contes et légendes de la réindustrialisation. Vous pourrez l'acheter, c'est passionnant. Canicule, on en parle évidemment depuis quelques jours. On espère que ça va se terminer dans les prochaines heures. La question cette semaine, c'est quand même... On a vu le degré d'impréparation de l'État à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans, souvenez-vous de Jacques Chirac, en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était au sommet de la Terre de Rio, il y a 24 ans maintenant, quasiment un quart de siècle. 2003, 15 000 morts de la canicule. 2026, on voit les morts se multiplier, on voit que les écoles surchauffent, les hôpitaux, les EHPAD... Qu'est-ce qui explique qu'avec une telle production de textes pour réduire les émissions carbone, les lois climat, les hauts conseils climat, les trajectoires, etc., on en soit encore aujourd'hui réduit à un constat d'échec total et à faire des réunions. Alors Matignon multiplie les réunions. Bon, Ludovic.
La question est extrêmement profonde parce qu'elle est multiparamètre. Évidemment, il y a une lecture politique, il y a une lecture économique. On va pas se mentir. D'abord, c'est la facture de cette transition.
On va l'attendre, mais ça va coûter cher.
Voilà. Donc c'est aujourd'hui, on parle d'une facture de l'ordre de 19 à 20 milliards d'euros par an pour que ce pays rentre dans une logique de transition. C'est-à-dire la transition étant de s'adapter finalement à un réchauffement qui est enclenché. Je pense qu'il y a un autre point commun, on en débat souvent aux experts, c'est l'échec dans ce pays de la planification, qui est extrêmement profond. Et là-dessus, à nouveau, on croise malheureusement de multiples problèmes. Après, il y a aussi, et peut-être en profondeur, et c'est peut-être le point, et c'est pas juste un clin d'œil, il y a un échec presque intellectuel qui prend quasiment tous les partis politiques, on va dire, depuis deux ou trois décennies. Je vais faire un parallèle avec la sécurité routière. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur le fait de mettre des radars et des dodanes, en gros, pour donner le coup de frein, mais on n'a jamais installé les glissières pour si jamais, quand même, la vitesse reste excessive. Maintenant, on se pose la question d'installer les glissières, c'est-à-dire que c'est un enjeu profond, le coût économique est phénoménal, rien que sur la deuxième partie des années 2010, en France, le coût des canicules, qui n'était pas au même rythme auquel on est en ce moment, il est chiffré à 37 milliards
d'euros. Ah oui. 37. Une étude d'Alliance Trade qui est sortie cette semaine, qui chiffre à 240 milliards potentiellement d'ici quelques années le coût de la crise. Hein. Laurent Moisson, le grand sujet, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a fait de la prévention, on a essayé de limiter le réchauffement climatique, mais à aucun moment on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre des clims dans ce pays.
Non, la France, fille aînée de l'Église et de la morale. C'est-à-dire que on a fait des manifs, on a écrit des textes avec des petites normes tatillonnes pour ennuyer au maximum les gens qui produisent. On a très bien réussi un élément de planification, c'est la désindustrialisation. Ça a été fait de façon très efficace. On a dit, écoutez, l'industrie, ça pollue, réglons le problème. Et en fait, on les a tellement ennuyés qu'ils sont partis polluer ailleurs. Maintenant, ils polluent plus à l'extérieur. Enfin, maintenant, c'est des pays qui sont absolument plus sous notre juridiction, qui sont aujourd'hui les gros pollueurs de ce monde. Donc, on peut faire toutes les marches du climat, on peut faire toutes les manifs, on peut bloquer nos...
On a perdu les manettes.
Mais voilà, donc on est maintenant dans un pays qui ne compte plus beaucoup sur plein de choses, mais notamment sur les émissions. On est plutôt vertueux, hein, d'ailleurs, quand vous regardez, grâce notamment à notre parc nucléaire, j'allais dire que les mêmes personnes qui aujourd'hui en ont fait... un fonds de commerce politique de ces canicules, étaient les premiers à expliquer qu'il fallait fermer les centrales nucléaires. Bon, donc on voit bien que là, on a un sujet et on commence à percevoir la différence qu'il y a entre l'écologie et l'écologie politique, c'est pas pareil. Et quand on prend un sujet et qu'on le politise, le sujet n'est pas de régler ce sujet, c'est de montrer qu'on gesticule de façon à avoir des votes et une clientèle qui peut dire au moins eux, ils font quelque chose. Donc le jour où on a compris que la gesticulation et les postures, c'est pas ça qui règle les problèmes, eh ben on fera comme tous les autres pays du monde. On a une filiale de nos clubs qui est en Espagne et qui est au Portugal. J'avais hier mon associé qui s'occupe de ça, donc il fait des réunions d'entrepreneurs comme nous, on organise régulièrement, et qui me dit... Mais alors, pourquoi tout le monde est en télétravail? J'ai dit, parce que les transports, c'est compliqué. Les machins. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'il fait chaud. Il a éclaté de rire. Et il dit, écoute, moi...
C'est terrible.
De temps en temps, je descends à Séville. C'est quoi? Nous, on allume la clim.
Tout est climatisé, quoi.
C'est un truc de dingue.
Tout simplement. Ouais. Jean-Marc, c'est quoi? C'est un manque de moyens ou...
Non, je pense d'abord, il faut problème... On est quand même dans une situation qui, sur le plan intellectuel, est assez exceptionnelle. Et la question qui se pose, c'est comment répondre à l'exceptionnalité. Je rappelle qu'en ce moment, cette semaine, il fait plus chaud que dans 2% de la planète qu'en France. C'est-à-dire que des endroits où normalement il fait plus chaud qu'en France, structurellement, en ce moment, il fait moins chaud. Ça va depuis Phoenix, Arizona, jusqu'à Bagdad, qui sont les endroits où normalement, à cette période-ci de l'année, il fait plus chaud et il fait plus chaud qu'en France. Vous savez, la Banque mondiale prend comme indicateur 100 degrés et donc ils ont une carte des 100 degrés. Donc c'est 100 degrés Fahrenheit. Et donc les 100 degrés Fahrenheit, alors, en l'occurrence, en ce moment, alors... Structurellement, on les voit apparaître en France essentiellement désormais dans la vallée de la Garonne et dans la vallée du Rhône, alors qu'avant, c'était uniquement la ville de Nîmes qui était concentrée sur...
On touche les 100 degrés Fahrenheit, ça y est, quoi.
Et donc, il y a effectivement le côté exceptionnel, parce qu'il fait plus chaud à Bordeaux ou à Nantes qu'à Nîmes. Donc, c'est une situation qui, sur le plan météorologique, est quand même assez exceptionnelle. Mais après, il y a les 100 degrés structurels, la vallée de la Garonne. Et donc, effectivement, vous avez trois possibilités. Soit, on a parlé de la France, fille mère de l'Église.
Oui.
Vous pouvez faire une procession. Vous pouvez, ça s'est fait à une certaine époque. Voilà.
C'est un peu ce qui se fait dans les réunions de crise interministérielles. Oui, c'est une procession gouvernementale.
On peut rappeler qu'Agamemnon a sacrifié sa fille pour avoir le qui lui permettait d'aller à Troyes. Donc, on pourrait faire quelques sacrifices. Bon, je n'appelle pas au sacrifice des enfants d'Emmanuel Macron, mais donc...
les enfants de Jupiter.
Il n'en a pas, d'ailleurs. Mais donc, bref. Je veux dire, on pourrait avoir une dimension qui... La deuxième interprétation, la deuxième action, c'est de raisonner en se disant, indépendamment de l'événement conjoncturel, est-ce qu'on a fait des choses sur le plan structurel, mais pas uniquement en termes de réponse à la canicule, en termes de réponse au réchauffement climatique.
Oui.
Ça, ce que proposent les économistes, c'est la taxe carbone. Je rappelle quand quand même que après les affaires des Gilets jaunes, on avait demandé au Centre d'analyse économique, au Conseil d'analyse économique, un rapport sur la taxe carbone. Et donc, et ça s'appelait d'ailleurs une taxe juste et pas juste une taxe, oui. Le rapport. Et ce qu'il recommandait, c'était effectivement d'augmenter le prix de l'essence et d'afficher clairement que les recettes ainsi dégagées serviraient à améliorer la réponse aux pertes en termes d'isolation thermique, aussi bien au moment où il fait très froid, qu'en couverture, effectivement, de la climatisation et de la lutte contre les chaleurs excessives. Bon. Il est absolument impossible dans ce pays d'augmenter le prix de l'essence. Non seulement on ne l'augmente pas, mais on fait en sorte...
Ah bah là, on l'a vu, hein, le signal prêt était assez fort avec la crise au Moyen-Orient.
La bonne réponse, c'est de dire, écoutez, ce devrait faire l'État, c'est de porter, moi je n'arrête pas de le dire, le prix de l'essence à 4 euros. Enfin, la troisième réflexion que je ferai, c'est, vous parliez de 2003, moi ce qui m'avait fait peur en 2003, c'est qu'on avait été obligé de mettre dans les réfrigérateurs de Rungis des cadavres parce que les familles ne venaient pas le chercher pour ne pas interrompre leurs vacances.
Oui.
Je pense qu'il y a quand même un moment où il n'y a pas que l'État qui est en jeu. Il y a aussi
la population. Aussi.
La population. Quand la population effectivement dit « je ne vais pas interrompre mes vacances pour aller chercher le vieux qu'on va le mettre à Rungis », il y a quand même un problème qui est un problème, on a parlé de morale, il y a un problème effectivement d'éducation, de rapport à l'autre qui commence à devenir, à mon avis, indépendamment de l'économie, sur le plan strictement éthique, relativement inquiétant.
Bon, je viens de vérifier la météo, il fait plus chaud à Bordeaux qu'à Bagdad.
Oui, exactement.
Voilà. Non, mais il faut se rendre compte de là où on est.
C'est exceptionnel.
Il fait plus chaud aujourd'hui à Bordeaux et à Paris qu'à Bagdad.
Alors que normalement, à cette période-ci de l'année, c'est l'inverse.
Il fait 39 degrés. Laurent Moisson,
oui, réaction. Non, mais si vous voulez, on est censé protéger nos jeunes et nos vieux.
Ben oui.
Voilà. Bon, nos jeunes, ils sont dans des écoles qui ne sont pas climatisées. Hein. Moi, j'ai 4 enfants, je peux vous dire que... plus ça va, et moins ils vont à l'école. Hein. Il y a toujours un truc qui va pas. Il neige 1 cm de neige, les bus scolaires passent plus. Et là, il fait chaud, on n'y va pas. Bon.
Le deuxième. Les parents partagent la même expérience.
Exactement.
Je pense.
Et le deuxième sujet, c'est évidemment nos anciens. Nos anciens, ils vont souvent dans des hôpitaux. Et en fait, il se passe que j'étais dans la salle d'attente avant de passer dans votre merveilleuse émission, et j'entendais qu'il y avait des morts à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on va se faire soigner, on en meurt. Donc ça, c'est un problème. Et il y avait même un urgentiste qui disait que vous commencez à avoir des cas de fugue, c'est-à-dire que des personnes âgées qui ont tellement chaud,
ah oui,
ils s'en vont. Voilà. Elles s'en vont, elles retournent chez elles alors qu'il était question qu'on les opère. Donc, alors on peut dire, ok, on n'a pas vu venir, il y a des hôpitaux depuis longtemps, ils ne sont pas climatisés. J'ai regardé, alors je suis tombé sur des études qui disent, avec, j'allais dire, une échelle assez large, mais qui vont, ça coûterait en gros entre 10 milliards et 25 milliards, si j'ai bien compris, de climatiser les hôpitaux en France. Bon, quand on parle de priorité, combien coûte l'arrêt, la suspension de la réforme des retraites et le nouveau congé parental? Vous prenez ça, en quelques années, finalement, on règle le problème. Donc sans forcément mettre des taxes en plus. C'est un choix de société. Comme aujourd'hui, on met tout sur les retraites, c'est-à-dire que le rêve absolu, et on n'a plus que ça comme objectif, j'ai l'impression, c'est de travailler, de partir le plus tôt possible en retraite,
oui.
Et ben, c'est de l'argent qui manque pour faire ça. Autre élément que j'ai vu à votre antenne, les TER ne vont plus fonctionner, notamment effectivement du côté de
absolument.
Bordeaux. Bon, ça veut dire que les gens ils disent, on va reprendre l'avion. Voilà, donc ça veut dire qu'on a tout fait pour éviter d'avoir trop d'émissions de carbone avec des lignes, machin, truc. On les a pas, on n'a pas adapté les choses, et voilà où on en est. Et dernier point qui est quand même stupéfiant, j'ai parlé du problème de la climatisation dans les hôpitaux. Alors on peut se dire, au Val-de-Grâce, le truc a été construit il y a quelques années quand même, peut-être que, bon. Là, il y a le CHU, je crois, de Nantes, qui vient d'être livré ou qui est en cours de livraison. Ils n'ont pas prévu... Ils n'ont pas prévu pour que ça soit climatisé. Ouais. Ben vous voyez, on est quand même, je veux dire,
c'est stupéfiant.
On est quand même au courant qu'il y a un problème climatique.
Bah oui.
Donc
depuis quelques décennies.
Eh bien, ceux qui font ça n'ont pas prévu. C'est un peu comme la gare de Nantes, qui est une sorte de blocos vitré, qui est magnifique. Hein, en hiver, c'est formidable. Et aujourd'hui, bah, les gens ne peuvent plus prendre le train. Il fait trop chaud.
Sur le fond, sur la canicule, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, et pour un peu, j'allais dire, un peu se mettre sur une autre lecture. Moi, ce qui me marque, vu de France, une partie de l'Europe, mais c'est...
7e puissance économique mondiale, quand même, la France. Hein. Nos seniors fuient l'hôpital.
On va prendre
parce qu'on y meurt de chaud.
On va prendre l'intelligence artificielle, on va prendre la voiture autonome, on va prendre même le retrait des États-Unis, l'OTAN, et tout ça. C'est comment la France rentre mal dans ce siècle. C'est-à-dire qu'on a un problème de logiciel. On s'agrippe sur beaucoup de dossiers comme si on pouvait revenir au monde d'avant. Comme si en étant vertueux, en gérant, les canicules n'existeraient plus. C'est trop tard, c'est enclenché. Je rappelle juste, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, que ce qu'on est en train de vivre, normalement dans une dizaine d'années, c'est 12 à 15 fois par an à Paris, entre les mois de mai et d'octobre. C'est une réalité, c'est enclenché. Donc il y a un moment, en fait, il faut se projeter. Ce monde, on ne le souhaite pas. C'est pas un monde forcément idéal dans tous les points. Mais il faut se projeter, mais il faut embrasser les choses aussi.
Il faut voir ce que l'on voit, comme dirait Peggy.
Et aujourd'hui, dans beaucoup de dossiers, que ça soit sur l'intelligence artificielle ou sur le fait de gérer des bâtiments, on a quand même une posture en s'accrochant dans un monde d'avant qui n'est pas ce qu'on va avoir à gérer collectivement. Et ça, c'est un vrai problème collectif.
Gabriel Zucman réponse à ça.
Oui, juste
Jean-Marc Daniel,
une réponse par rapport à
rapidement.
Ça. Et au petit débat qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire le débat qui consiste d'ailleurs finalement, les retraités sont trop bien traités. Je rappelle que si on cogne les retraités, on cognera une partie de la population. Donc la question est de savoir, c'est est-ce qu'il faut cogner les gens qui prennent leur voiture et qui sont dans les embouteillages le matin à être un seul par voiture, ou est-ce qu'il faut cogner les vieux?
Mais on alors, cogner est un mot un peu brutal pour dire désindexer peut-être les plus aisés.
Désindexer, ça veut dire appauvrir une partie de la population.
Ça veut dire augmenter moins vite la population,
effectivement, appauvrir une partie de la population. Hein. Puisqu'à l'heure actuelle, ils sont indexés juste sur l'inflation, donc si on...
Et
si
pas
on
sur la réduit, progression du pouvoir d'achat.
Pas sur la progression du pouvoir d'achat. Donc,
mais l'inflation, se trouve, augmente parfois que l'augmentation du pouvoir d'achat ces dernières années.
Le pouvoir d'achat des salariés a plus augmenté que celui des retraités, puisqu'il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat des retraités.
Alors, tout dépend sur l'échelle historique.
La question qui se pose, c'est, effectivement, il va falloir faire payer quelqu'un, il va falloir cogner. Et donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est les vieux qui doivent payer? Est-ce que c'est les gens qui utilisent leur voiture? Ou est-ce que c'est...
Les milliardaires. Ça, c'est la solution de Gabriel Zucman.
Effectivement, on demande à l'ensemble de la population un effort en travaillant plus. Est-ce que c'est... Bon. Et donc, je pense que le débat est un débat qui doit être... Et on vient de le dire. Il faut dire la vérité aux gens. Il va falloir faire un effort.
Oui.
Cet effort, vous le faites soit en concentrant, en disant, écoutez, c'est les vieux, on s'en fout de tout ça. Il n'y en a rien à foutre. On a encore de temps devant nous.
Ils votent
soit,
beaucoup. Hein.
Ils votent
beaucoup, les vieux.
Oui, ils agissent. Mais bon,
qui vieillit, on est très à l'écoute.
Mais on s'en fout, après tout. Ils ne manifestent pas, en tout cas. Il y a assez peu de gens qui cassent des abribus après 70 ans. Donc,
mais je sens la colère monter chez Jean-Marc Daniel. Ça pourrait venir.
Où est-ce que c'est effectivement les gens, encore une fois, ce que constate Vinci, c'est-à-dire que dans l'accès à Paris, tous les matins, le nombre de gens qui sont seuls dans la voiture a considérablement augmenté, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut promouvoir le covoiturage et tout ça.
Mais l'état des transports publics en même temps, Jean-Marc.
Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que, effectivement, le véritable enjeu, c'était ce qu'avait été dit au moment des COP successives, c'est que la taxe carbone, normalement, c'est un moyen, effectivement, de cogner, de faire payer à quelqu'un. Mais ça n'a de sens, dans le rapport que disait donc le CAE, ça n'a de sens que si clairement on utilise cet argent pour véritablement
le
lutter
flécher
contre le réchauffement climatique.
Oui. Il y avait l'ISF
et pour terminer sur l'hôpital de Nantes, sur la polémique autour de l'hôpital de Nantes, je rappelle quand même que les architectes ont des obligations dans cet hôpital et effectivement, il ne sera pas climatisé, mais il est fait avec des matériaux qui normalement permettent de réduire considérablement les pertes d'énergie l'hiver et d'augmentation de température l'été. Il ne faut pas considérer non plus que les architectes, que nos dirigeants sont systématiquement abruti dans l'erreur.
Ça peut arriver. C'est pas totalement exclure non plus, hein, cher Jean-Marc.
Des fois, on a un doute.
On pourrait demander combien il fait à l'intérieur.
C'est incroyable. D'où sortent ces gens? Comment se fait-il que nous ayons une élite de gens constitués d'abrutis, d'incapables? Ils sont même pas corrompus, ils sont cons. Alors, je dis, non, c'est une vision du monde qui me paraît un peu réductrice.
Il y a une forme de sincérité dans la connerie, vous savez.
Oui, j'en sais pas. Je sais pas. Mais enfin, il me semble qu'il y a des architectes dans ce pays qui a un certain talent et que dire, écoutez, l'hôpital de Nantes, c'est ni fait ni à faire. Moi, je suis pas architecte. Ouais. J'ai vu fonctionner les architectes. Il y en a qui ont du talent et qui sont compétents.
Oui, la gare de Nantes, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi. Pour équilibrer un peu. Allez, il nous reste 5 minutes, on est super à la bourre. Je voulais qu'on parle quand même. La solution, c'est de taxer en France, en général. Si on a une taxe Zucman, vous dites, qui va payer, cher Jean-Marc?
Milliardaires,
bien sûr, 1800 milliardaires, ça rapporterait 25 milliards d'euros. Oui, alors c'est pas tout à fait ce que dit une étude qui a été commanditée par le mouvement patronal, Trop c'est trop,
camarades, d'où parles-tu d'une voie libérale ? Disons-le tout de suite. Un rapport co-rédigé par une invitée régulière de cette émission qui est Nathalie Janson et qui nous dit que le chiffre, bah, ça serait pas 25 milliards de recettes, ça serait plutôt 5 milliards et demi. Oui. Ludovic,
l'étude,
comment on arrive là ? Qui dit vrai là ? On est perdu.
Rentrons dans les chiffres et puis après peut-être on parlera du timing qui m'étonne énormément de cette étude, mais bon ça c'est une autre marque. L'étude, on l'avait déjà croisé au moment du budget, c'est-à-dire la première fièvre Zucman,
qui était à l'automne dernier,
au moment où on a été dans cet incroyable débat budgétaire, et on sait que le rendement de la taxe Zucman, 20, 25 milliards pour les plus optimistes, eux aujourd'hui disent dans le meilleur des cas 5 milliards déjà en rendement. Ça, on sait que, et ce rendement-là, aujourd'hui, dans, honnêtement, toutes les études un peu crédibles situent entre 5, 7, 8 milliards, pas plus. Oui. Après, il y a deux points dans cette étude, moi, qui m'ont marqué. Là, le premier, c'est que, évidemment, c'est le contre-coup de cette taxe Zucman, c'est au-delà de sa rentabilité, c'est-à-dire, évidemment, ce qu'elle implique dans l'économie réelle. Et là, il y a des chiffrages qui sont intéressants parce qu'il y a vraiment un prix à payer. En tout cas, les auteurs le posent comme ça. Et puis, il y a un point aussi, on l'avait croisé en septembre-octobre, c'est la fragilité de cette taxe liée à son assiette. C'est-à-dire à quel point elle est concentrée sur quelques personnalités. Je rappelle que c'est une dizaine de familles qui représentent 75% de cette taxe. Donc c'est presque une taxe nominative, quoi. Je regarde Jean-Marc en même temps. Et ça, c'est l'extrême fragilité. Après, sur la capacité, là où je quitte davantage cette étude, c'est, on va dire, sur quel effet de bord elle aurait sur les mouvements, l'exil fiscal.
Bah alors, oui. Là, vous avez quand même 45% de l'assiette qui dépend de trois familles. Oui.
Mais
je suis pas sûr que alors on connaît la concentration d'impôts en France, mais je suis pas sûr qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste dans le viseur du canon fiscal sans bouger.
On est dans ce mouvement-là. Moi, ce qui me surprend davantage, c'est que j'allais dire, c'est le moment de cette prise de parole, parce que je veux dire, la taxe Zucman, c'était un petit peu banalisé.
De la pub.
Et en faisant ça, on l'a fait renaître quelque part aussi.
Bon, Laurent Moisson.
Ouais, mais je pense que là, pour le coup, elle serait revenue assez spontanément.
Probablement.
On risque d'en entendre parler à l'automne prochain.
Et donc je pense que c'est bien que les patrons aient tiré les premiers pour ce coup-ci. Moi, je reviens, j'ai un petit côté historien, puisque j'ai usé les bancs des universités pendant très longtemps sur l'histoire économique. Il se trouve que quand vous regardez l'Égypte des Ptolémées, quand vous regardez l'Empire romain de Constantin le Grand, quand ils ont augmenté massivement les impôts sur les paysans, c'est-à-dire les gens qui possédaient leurs terres,
oui.
Les paysans ont abandonné leurs terres et ont changé de région. Donc l'exil fiscal, c'est pas que les milliardaires qui devraient, pour des raisons morales, etc. Vous augmentez la fiscalité sur les cigarettes, vous voyez augmenter la contrebande.
Le marché noir, bien sûr.
Donc, je veux dire, je comprends pas que là-dessus, les phénomènes classiques de psychologie humaine ne soient pas étudiés par ces gens qui nous font des taux, des assiettes, des machins. Je veux dire, le concept de la grand-mère, quoi. On lui pose une question, on voit comment elle répond, et puis on se dit que vous avez en ce moment un débat qui a eu lieu avec une loi qui a été votée, je crois qu'elle n'est pas encore appliquée, en Californie, qui est quand même un pays progressiste, où tout le monde est champion du monde de la morale et du progressisme. Bon, même chose, c'est-à-dire pour faire payer les milliardaires.
Oui.
Donc à partir de 1 milliard de, je crois, de capital, enfin en tout cas de
fortune personnelle, patrimoine.
Voilà. Il y a 200 milliards à peu près qui sont visés. Il y en a déjà 9 qui sont partis, c'est les 9 plus gros. Ils sont partis alors qu'on en parlait. Je regardais également une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Challenge qui a fait ça, et qui expliquait que l'exil fiscal avait repris. C'est-à-dire que déjà sur les 25 familles les plus fortunées de France, il y en a 9 qui n'habitent plus en France.
Oui.
C'est des gens qui sont très bien conseillés. Je parle même pas de c'est bien, c'est pas bien. Je dis juste sur l'efficacité.
En état de fait, on peut constater froidement les réactions, effectivement.
Vous taxez les yachts, les gens déplacent les yachts.
C'est le cas en Norvège ou en Suède aussi.
Mais Norvège et Suède, c'est pareil. La Norvège.
Ils sont partis.
Exactement. La Suède, je rappelle que le fondateur d'IKEA a vécu l'essentiel de sa vie professionnelle en Suisse. Donc.
Le capital est évidemment beaucoup plus mobile que le travail.
Donc pourquoi est-ce que les gens ne s'organiseraient pas pour le faire? Donc ça va forcément rapporter moins. Regardez ce qui s'est passé avec les résidences secondaires à Biarritz. Ils ont augmenté en disant taxe sur les résidences secondaires. Là, on n'est pas en train de parler de milliardaires qui sont des gens étranges, etc. C'est voilà, le français un peu plus que moyen, qui a une maison secondaire, il y a quand même un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, taxe, c'est ma résidence principale.
Ah, des externalités.
Et comme ça, vous n'aurez pas mes taxes.
Jean-Marc, un mot très rapide.
Oui, non, que l'excès d'impôt tue l'impôt, on le sait, hein, et puis ce qui se passe en Californie. D'ailleurs, le débat en Californie rebondit sur le débat de 1978, puisque c'est à l'occasion des midterms que ce débat a lieu, et donc sur le fait qu'en 1978, on a supprimé l'impôt en question, qu'on veut rétablir en Californie, et donc un des arguments des gens qui veulent le rétablir, c'est de dire, écoutez, il n'y avait pas d'exil fiscal en Californie avant 78. En fait, ce qui, dans ce débat, vous avez une dimension qui est une dimension, on a parlé de morale, qui est une dimension éthique, c'est qui doit payer, j'en reviens à ça.
Ah, oui.
Et donc, la seule chose que nous propose dans ce pays, c'est, encore une fois, les vieux, les étrangers, parce qu'il y a aussi c'est l'immigration qui nous coule, et puis les riches. Or, je pense que c'est les étrangers, c'est eux qui font tourner l'économie, toute une partie de l'économie, les riches, c'est eux qui épargnent, et les vieux, après tout, tout le monde finira par être vieux. Donc, cogner sur les vieux, c'est aussi cogner sur soi. Mais je voudrais simplement rajouter deux choses. La première chose, c'est que dans l'impôt sur le capital, on a parlé de Constantin et tout ça, la situation actuelle n'a rien à voir, parce que Constantin et tous ces gens-là avaient en face d'eux un capital qui existait quoi qu'il arrive. C'est le grand débat des physiocrates. On peut taxer le capital si ce capital existe,
oui,
quoi qu'il arrive. Et la terre existe.
Parce que c'était le cas de la terre, oui.
Parce que la terre. Or, on est dans une situation où les capitaux qui sont menacés sont des capitaux qui n'existent pas forcément. Un appareil industriel, vous le créez, à la différence de la terre de Constantin. Et donc, c'est encore plus grave que ce qu'on vient de dire sur Constantin et sur les Romains. C'est-à-dire que non seulement vous chassez les producteurs, mais vous empêchez même l'appareil productif d'exister. Donc
c'est la double peine.
C'est la double peine. La deuxième chose que je mettrai en avant, c'est on va commémorer les 10 ans de la mort de Michel Rocard.
Oui.
Et Michel Rocard, qui est à l'origine de l'ISF.
Et de la CSG.
Et de la CSG, mais sur l'ISF, il avait fait un très beau discours en disant qu'il n'y a rien de pire quand on raisonne sur le plan fiscal que de raisonner en termes de revanche sur les riches. Et que l'ISF ne doit pas être interprété comme étant...
Le problème de la moralité en fiscalité qui fait toujours beaucoup de dégâts... Et peu de résultats.
C'est avant tout une taxe de revanche sur les riches.
Revenge tax.
Taxe c'est sur les fenêtres. Porter les fenêtres votées par le directoire, ça a lancé la plus grande opération de murage.
Absolument.
Je sais pas si on dit murage, mais en tout cas, voilà, d'emmurement.
On en voit encore.
De muration, hein. Voilà.
Ouais. On voit des immeubles dans Paris.
Des fenêtres,
encore.
Etc. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a à chaque nouvelle taxe une adaptation des gens qui sont taxés. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Marc, on vote toujours pour que ça soit les autres. C'est-à-dire que quand on est jeune, on vote pour que ça soit les vieux, les machins. Quand on est français, en fait, soit sur les étrangers. Quand on est vieux, on dit c'est plutôt les autres.
Alors. Allez, on va se quitter pour une très courte pause. Restez avec nous, on va parler frais d'université. Est-ce qu'il faut augmenter les frais d'université? Un débat explosif. Et puis, on parlera du sommet France-Italie qui se tient aujourd'hui. Est-ce que la France et l'Italie peuvent devenir le nouveau moteur économique de l'Europe? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 5 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Laurent Moisson, entrepreneur et investisseur, cofondateur des Forces françaises de l'industrie et auteur de La France s'en va en guerre en oubliant ses munitions. Contes et légendes de la réindustrialisation avec Ludovic de Sauté, toujours directeur délégué de la rédaction de la Tribune, et Jean-Marc Daniel, éditorialiste à BFM Business. Jean-Marc, je vais commencer avec vous, l'universitaire de la table. Quoi que vous avez donné des cours aussi, Laurent ?
J'en donne encore.
On va parler, et vous en donnez encore. On va parler droit, enfin frais d'entrée à l'université, un sujet évidemment explosif, assez récurrent. Un rapport vient d'être mis au ministre de l'Enseignement supérieur qui préconise de multiplier par 5 les frais d'inscription à l'université. Dit comme ça, on saute tout de suite au plafond. Je rappelle juste ce chiffre. Une année de licence, les frais d'inscription, c'est 178 € en France. C'est l'équivalent d'un abonnement annuel basique à Netflix. Voilà la valeur qu'on donne à l'enseignement universitaire en France. Une année d'enseignement, c'est un abonnement à Netflix. Une année de master, 254 €. C'est un abonnement à Netflix premium, avec la 4K. Voilà. Et donc, il serait interdit, selon beaucoup de syndicats, le corps professoral est plutôt contre aussi, d'augmenter. Je rappelle qu'une licence coûte 9 000 € par an quand même à l'État. Ma question, elle est simple, hein, Jean-Marc. Est-ce que pour sauver les universités qui sont aujourd'hui dans un état de paupérisation catastrophique, il faut relever les frais d'inscription?
Alors, je pense que oui. D'abord, rappelons les chiffres.
L'introduction est un peu conditionnée. Oui,
vous donnez des...
mais c'est un sujet qui me tient à cœur.
Globalement, le budget du ministère, enfin, le budget des universités de l'enseignement supérieur en France, c'est 13 milliards et les frais de scolarité rapportent 500 millions. Moi, ce qui me frappe, la première chose, c'est qu'il y a une distorsion considérable entre les différents types de formations. Oui. Je veux dire, les formations les plus prestigieuses en France sont non seulement gratuites, mais les étudiants sont rémunérés. Les étudiants dans l'ancienne ENA, l'INSP, les étudiants à l'école normale supérieure, les étudiants à l'école polytechnique sont rémunérés. Et donc, mais en échange, on leur demande
de s'engager
à fournir, à rendre à la nation, par leur service, ce qu'ils ont reçu sous forme de rémunération au moment de leurs études. Et puis, en regard de ça, vous avez les écoles de commerce qui, maintenant, augmentent considérablement les frais de scolarité. On arrive à 80 000 euros à HEC ou dans des institutions aussi prestigieuses. Donc, je crois qu'il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Oui.
Et moi, ce qui je trouve intéressant, c'est ce qu'avait prévu à un moment donné, et c'était un gouvernement travailliste en Angleterre à l'époque de Tony Blair, de dire on va demander des frais de scolarité très importants qui permettra aux universités, en plaçant cet argent, de trouver des ressources, et on remboursera progressivement au fur et à mesure que les gens réussiront aux examens. Oui. C'est-à-dire qu'au concrètement, l'idée c'était on demande 200 000 livres.
D'incentive.
Oui, voilà.
On à la réussite.
200 000 livres aux gens. Et puis, alors, ça dépend. Il y a des endroits où on demandera plus, des endroits où on demandera un peu moins, mais 200 000 livres, et on vous rembourse en 5 ans, donc 40 000 livres jusqu'au master, pourvu que vous ayez le master. Si vous êtes collé, c'est tant pis pour vous. Et l'idée était...
C'est la double peine, là, du coup. Hein.
L'idée, c'était de fournir des recettes aux universités, au travers du placement, et de faire en sorte que les gens réfléchissent à sur quoi ils s'orientent, c'est-à-dire à leur capacité effectivement de réussir. Trois, aux gens qui vont leur prêter, d'essayer d'évaluer s'ils vont être en situation de pouvoir rembourser. Et quatre, aux universités, de mettre une certaine forme d'excellence en se disant, moi je ne vais pas demander 200 000, mais un peu comme HEC. HEC dit, moi je demande beaucoup parce que je suis capable de garantir à la sortie de l'école des niveaux de rémunération beaucoup plus importants que ce que peut garantir une université lambda. Donc je pense qu'il y a une véritable réflexion à faire à partir de ces trois idées fortes pour moi. La première, c'est que il faut que les gens aient une incitation sous une forme ou sous une autre de faire de leurs études quelque chose qui soit quelque chose de concret, de positif et de formateur. La deuxième chose, c'est que il faut se poser la question, si jamais on maintient cette idée qu'il y a des choses qui sont gratuites, qu'est-ce qu'on demande en échange? Est-ce qu'on peut demander, par exemple, aux gens qui ont fait des études de médecine, si on leur demande des frais de scolarité relativement faibles, d'avoir un engagement de servir en tant que médecin dans les déserts médicaux? Et trois, je pense que la concurrence entre les universités qui leur permettrait de fixer leur droit de scolarité serait aussi un moyen d'améliorer leur rendement et l'efficacité.
Qui pose le sujet de l'autonomie, là, du coup.
Autonomie,
aussi,
hein, et, ça va avec. Et elle est la concurrence, voire même jusqu'à la privatisation de ces universités. Après tout, encore une fois, HEC, sur le papier, c'est privé.
Absolument. Laurent Moisson.
Et oui, le réel, c'est quand on se cogne, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système. Enfin, la réussite en France, hein, depuis la Révolution, grosso modo, c'est réussir dans les études, qui sont des études difficiles, sélectives et parfois prestigieuses, qui donnent accès à des carrières qui permettent notamment l'ascension sociale. Donc ça a été complètement ancré dans nos têtes de Français.
Est-ce que cet idéal méritocratique existe toujours?
Alors, pour moi, non. Parce qu'il a été dévoyé. À un moment donné, on s'est dit, mais finalement, s'il y a des gens qui arrivent pas, c'est quasiment un complot, parce qu'ils viennent pas du même milieu, etc. Alors qu'il y avait quand même une ascension sociale qui fonctionnait. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient de Polytechnique ou des universités prestigieuses qui venaient de milieux modestes. Donc ça fonctionnait. Alors évidemment, probablement moins, plus qui venaient d'autres milieux, mais globalement ça fonctionnait. Donc on a cherché à améliorer ça et il est arrivé une idée dans la tête d'un certain nombre de nos dirigeants que, comme plus on avait de diplômes, plus forcément il y avait des gens qui réussissaient, plus forcément on avait un pays qui était puissant et riche, il n'y a qu'à augmenter le nombre de diplômés.
C'est la base de la productivité, normalement. Hein, plus en forme travailleurs, mieux ils sont formés, et plus la productivité augmente.
Vous prenez une certitude comme ça, vous la mettez dans la tête des gens en disant, finalement, si tu veux réussir ta vie, il faut un diplôme. Plus il y aura de gens diplômés, plus il y aura de gens qui vont réussir leur vie.
Non, mais est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'on n'a pas augmenté le niveau global quand même?
Non, non, bien sûr que non. Non, non, mais non. Vous demandez aujourd'hui aux gens qui corrigent les copies, notamment en maths, etc. Ils vous expliquent qu'il faut une remise à niveau systématique et que par rapport aux gens qui passent le bac, qui passaient le bac dans les années 80, il y a quasiment une classe d'écart. Donc ça, on le sait. On le sait très bien. On continue à avoir une élite qui fonctionne, mais moi je discutais avec Olivier Louanzi, qui est un enseignant au CNAM,
invité régulier qu'on avait encore cette semaine ou la semaine dernière sur le plateau. On connaît très bien Olivier,
qui est membre de notre club des Forces françaises de l'industrie. Il me disait que aujourd'hui ils sont obligés de faire, quand ils récupèrent des gens dans ces formations, une année de transition, de compensation. Ouais. Donc ils font parfois des choses qui devaient être faites en 5 ans, ils le font en 6 ou 4, enfin 4 quand c'était 3, etc. Donc ça, c'est très important. Et le sujet, je termine là-dessus, vous avez un certain nombre de personnes qui pensent complètement le contraire, notamment aux États-Unis, et qui, je ne sais plus quel économiste, je crois que c'est Nicolas Taleb, voilà.
Oui.
Le signe noir, voilà, qui vous explique, est antifragile, voilà, c'est lui qui avait écrit ça, qui vous explique qu'on pense, dans les pays développés, que plus il y a un pourcentage de la population d'école supérieure, et donc plus le pays est riche. Et lui, il dit, c'est le contraire. C'est parce que le pays est riche qu'on envoie plus facilement nos enfants.
Il inverse la logique.
Exactement. Et il dit, ce qui a fait la richesse des pays, c'est le risque entrepreneurial, et parfois, il vient de gens qui ne sont pas bien diplômés, et qui vont, on parlait d'esprit de revanche, qui veulent avoir une revanche sociale par leurs propres moyens en se lançant. Donc voilà, c'est ça que ça interroge, cette question.
Sur le,
est-ce que plus de moyens, ça veut dire de meilleurs résultats? Forcément aussi, hein, on peut renverser le débat, Ludovic. Alors, de sauter.
Je vais prendre un peu à compte, parce que c'est un peu mon coup de gueule la matinée, parce que malheureusement, les 20 dernières années sur ce type de mesures nous ont appris le fiasco. Moi, j'ai l'impression que ce qui a été annoncé hier, c'est comme quand on dit, tiens, on va augmenter le ticket modérateur dans les hôpitaux. Est-ce que ça va mieux dans les hôpitaux 20 ans après? Non. C'est-à-dire que c'est honnêtement, c'est pas en augmentant qu'on va résoudre le problème. Et je ne trouve inadmissible dans ce pays qu'on soit pas capable de toucher l'abattement professionnel sur les retraités et que 3 mois après...
Vous allez encore cogner sur les retraités, mais Ludovic.
Qu'on soit dans un pays qui n'alimente plus sa jeunesse. Parce que c'est ça aussi le fond du message. C'est pas juste une histoire de coût. Philippe Baptiste, qui est ministre d'enseignement supérieur, dans Au-delà des tarifs hier, a fait la remarque la plus juste. Il faut surtout reformater les formations. Ce que l'enseignement supérieur a vécu, je vais juste le rappeler, pour qu'on comprenne, au début des années 80, sur 100 lycéens, il y en avait 20 qui partaient dans les études supérieures. Aujourd'hui, il y en a 80. Sur les 20 à l'époque des années 80, il y en avait 12-13 qui allaient en université, 2 dans le privé. Aujourd'hui, il y en a 40-45 qui vont en université et 20-25 qui vont en privé. Et le privé, honnêtement, on va pas se mentir, tout à l'heure on parlait d'HEC, c'est pas comme si dans le privé, il y avait que des bonnes maisons, parce que des formations payantes pour apprendre à peigner les ongles, il y en a aussi. Hein. Donc c'est et là, c'est un vrai coup de gueule. C'est-à-dire qu'on a un problème de projet de société et politique de la même façon que sur les canicules, sauf que là, on joue avec notre avenir. Et aujourd'hui, on a des enseignements, la France s'est cassée la gueule sur les filières scientifiques, et on va pas, ne nous étonnons pas qu'on ait des débats après dans certaines démocraties sur les vaccins, la Terre plate ou le réchauffement climatique, parce que c'est pas juste produire des ingénieurs, c'est aussi s'entendre sur un monde sur lequel on peut comprendre une capacité d'abstraction qu'apportent les sciences. Donc, si on ne fait pas un effort de reformater et qu'on rentre juste par une question de prix, attention, grosse alerte.
C'est une révolution totale, hein, ce que vous nous dites qu'il faut mettre en place. Là.
En fait, c'est ça un pays ambitieux aussi.
Non, moisson.
Oui, mais rapide. Je pense que l'histoire de le prix ou qui on fait payer, c'est un sujet intéressant, mais moi je pense que c'est pas le cœur du problème. Oui, vous l'avez dit, le sujet, c'est l'effectif. On avait un système qui marchait parce qu'il était sélectif. Et quand vous êtes sélectif, vous pouvez dire c'est un investissement national qui va aller sur quelques personnes qu'on va particulièrement bien former. Le problème, c'est que par rapport à tout ce que j'ai dit avant, on a ça dans la tête. Et c'est complètement faux, parce qu'aujourd'hui, on est en train de précipiter des générations, enfin des bataillons entiers dans des filières qui n'ont plus d'avenir, où on va avoir des bacs plus 5 qui n'auront plus les emplois en face. Et à côté de ça, on manque de chaudronniers, on manque de soudeurs, on manque de métiers manuels qui, eux, sont de mieux en mieux payés, qui sont menacés.
Mais des formations professionnalisantes qui sont très dévalorisées.
Exactement. Donc, en fait, si vous voulez, remettez de la sélection là-dessus. On pourra avoir des formations quasi gratuites parce que c'est très bien, effectivement, il y a des familles qui ne peuvent pas se payer, même en emprunt, 80 000 balles pour faire... Bon, alors HEC, j'imagine qu'on peut emprunter quand on fait HEC. Quand vous faites la 35e école de oui. commerce dans le classement, vous allez voir votre banquier et vous dites, écoutez, 80 000 euros, enfin, j'imagine que c'est moins cher, mais pour faire l'école X, enfin, pas X, mais Y, eh ben, ça se passe mal. Vous ne l'avez pas, votre prêt. D'ailleurs, ça peut être un élément de sélection aussi. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre prêt parce que c'est une école de voie de garage. Bah, peut-être qu'il faut vous poser la question, faut que je gagne ma vie en faisant autre chose.
Oui.
Donc voilà, revalorisons les métiers qui sont des métiers manuels, qui sont des métiers techniques. Envoyons moins de gens derrière le bac pour la gloriole. Et donc, ça fera des professeurs qui ont plus les moyens d'enseigner et on pourra revenir à budget constant sur des formations d'excellence.
Bon.
Oui, non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que être sélectif, être exigeant, demander un effort, notamment aux gens qui s'engagent dans la vie, dans des formations, ça me paraît être une nécessité. Je rajouterai deux choses. La première, c'est le débat sur le SMIC jeune qui avait été lancé dans les années 90, puis qui a été relancé par.
Relancé par MEDEF, dernièrement.
Par le MEDEF, après avoir été donc.
Passé. Pour les NITS, hein, pour les jeunes sans formation, sans diplôme, voilà, sortis du système.
Donc, il y avait eu Balladur, il y avait eu Villepin, là, il y a de nouveau le. Bon,
le CPE,
regardez, en fait, les travaux de l'OCDE. Sur ces sujets, l'OCDE dit en fait, il y a deux types de formations possibles. Il y a des formations qui sont très professionnalisantes et qui permettent effectivement aux entreprises de savoir qui elles vont recruter. C'est-à-dire un soudeur, on sait qu'il est soudeur. Un ancien élève d'HEC, normalement, il est capable de lire un bilan, il est capable d'animer une équipe. Bon. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez avoir un code du travail relativement strict, relativement protecteur, et des niveaux d'entrée relativement élevés. Puis vous avez des situations où, au contraire, le système scolaire est un système scolaire qui est un système qui ne vous donne aucune information sur la qualité des gens, qui est un système qui distribue les diplômes sans se poser la question des skills et de l'education, comme on dit en anglais.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, il faut que vous ayez un système juridique en regard qui permette aux entreprises de respirer un peu et d'évaluer les gens au travers d'un switch jeune. Bon, le problème de la France, c'est qu'on a un système scolaire effondré et un système protecteur très très développé. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on a du chômage des jeunes. Donc la traduction concrète, immédiate, indépendamment des droits de scolarité, c'est quand même aussi le chômage des jeunes. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est qu'il y a un indicateur que met en place la Banque mondiale sur effectivement le poids des dépenses. Donc c'est ce que vous disiez un peu, le poids des dépenses par rapport à l'éducation, par rapport au développement. Et ce qu'ils disent bien, c'est que les systèmes qui réussissent sont les systèmes où les gens formés ne vont pas dans la fonction publique. Ce qui est en train de pénaliser en particulier certains pays africains, c'est que toute formation de haut niveau signifie désormais entrer dans la fonction publique. Alors, on peut dire, en France, c'était aussi le cas, parce que je parlais de l'école polytechnique, de l'ENA, de l'école normale supérieure, c'était quand même des écoles qui avaient été créées pour former des fonctionnaires.
Oui.
Heureusement que la France a su faire en sorte que tous ces gens-là, au bout de 5-10 ans, ne sont plus dans la fonction publique. Au bout de 5-10 ans, ils sont dans la réalité, dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, dans la réalité.
On a aussi besoin des fonctionnaires, mais c'est vrai, peut-être pas 5,5 millions. Moralité, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, et quand l'université est gratuite, ça donne des diplômes qui n'ont plus grande valeur non plus. Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je voulais qu'on parle du sommet qui se tient aujourd'hui, franco-italien. Rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, ça n'a pas été tout à fait simple ces dernières années au niveau politique et diplomatique entre les deux pays. Mais en termes économiques, on est quand même très proches. On partage de nombreux intérêts stratégiques dans la défense, l'espace, l'énergie, l'industrie, l'immigration. Quels sont les enjeux économiques, Ludovic, de cette rencontre aujourd'hui?
Les enjeux économiques sont assez profonds. D'abord, il faut rappeler que je crois que l'Italie-France représente à peu près en termes d'échange une enveloppe d'environ 110 milliards d'euros l'année dernière. Donc, c'est une historique et très forte. Il y a une petite lecture européenne, vous le disiez tout à l'heure en ouverture d'émission, c'est-à-dire que on probablement qu'on rentre dans une période un peu dolce vita par rapport à la relation allemande qui est en train de se tendre sur pas mal de dossiers. Là, ce qu'on attend, cette rencontre qui a lieu aujourd'hui entre Meloni et Macron à Antibes, c'est il y a dans les dossiers chauds et sur lesquels il pourrait avoir des annonces, il y a évidemment le registre de la défense, sur lequel il y a des interconnexions extrêmement profondes. Je pense notamment au groupe Leonardo italien, et dans le spatial, et dans le militaire globalement. Et puis, le registre aussi énergétique, qui a un gros volet, et notamment sur lequel il y a beaucoup d'interconnexions. On pourra avoir des annonces notamment sur le... appelle le SMR, le nucléaire. Mais au-delà de ça, on a eu tellement de strabisme, j'allais dire, pendant deux décennies à regarder Berlin, mais qui est en train de gérer sa désindustrialisation forcée, on va dire, qu'on a oublié un petit peu nos voisins italiens. Et sur lesquels aujourd'hui il y a, on va prendre un groupe comme Stellantis, hein. Un groupe comme Stellantis qui est l'union de Peugeot, Fiat et autres, et traduit ce que peut être l'interconnexion entre l'Italie et la France aujourd'hui.
Oui, absolument. Est-ce que le couple franco-italien pourrait devenir le nouveau couple franco-allemand, Laurent Moisson?
Oui, mais alors plutôt en queue de peloton quand même. Hein. Ah. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de devenir. Il doit y avoir la Grèce entre nous, mais qui est passée sous l'Italie, mais je pense qu'en en dette sur PIB,
en niveau endettement,
on est parmi les pires.
Ouais, troisième.
C'est deux gros pays. Voilà, qui ont des forces et des faiblesses qui sont différentes. Hein. Nous. Je reviens sur les entreprises. La France est plutôt les grands groupes hein, qui réussissent en France. Bon, alors, le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'ils sont encore français à force de décourager la
européen peut-être.
Bon, je ne sais pas. Eux, c'est les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. On a parlé de Zucman. Eux, c'est pas touche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit de succession quand une entreprise est transmise.
On a le pacte Dutreil, c'est vrai qu'il est encore un peu plus renforcé, effectivement.
Alors, il est quasiment nul. Hein. Enfin, je crois qu'il y a des exemptions qu'il faut. Par contre, si vous vendez l'entreprise, plus long, vous êtes fiscalisé. Hein, donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, à la différence des Français, que l'entreprise, c'est pas un bien comme un autre. Vous avez un immeuble, vous transmettez ça à vos enfants, vous êtes taxé, c'est normal. Il y a effectivement, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, de l'immatériel. Il y a des choses qui ont une valeur à un instant T. Et si on doit payer une taxe dessus, ben en fait, vous êtes obligé de la vendre. Ça a été le grand malheur français. Et ce que les Italiens ont réussi à ne pas faire. Donc ça, ils ont réussi à être très bons là-dessus. L'Italie aussi, c'est très compliqué. C'est deux pays en un. Oui. C'est deux économies.
Mais oui, l'Italie du Nord n'est pas l'Italie du Sud.
Exactement.
Et inversement.
Et vous avez une Italie du Nord qui finalement ressemble pas mal au Mittelstand allemand. C'est dynamique.
Très industriel, très productif. Exportateur.
Ils exportent, ils innovent beaucoup, ils sont forts sur les machines-outils. Vous avez le Sud qui ressemble, je sais pas à quoi, mais enfin en tout cas pas du tout. Hein. C'était là, on est. En plus, il y a un petit problème de mafia. Donc on est sur une économie qui n'a rien à voir. C'est compliqué à gérer. Donc. Très bien pour ce couple. Moi, je trouve qu'on ressemble beaucoup plus à nos amis latins. Enfin, on est latins également, donc oui. À nos amis italiens. On peut faire des choses. Ce qui me rassure, c'est qu'on est sorti des postures. Parce que l'arrivée de Meloni, ça a été, j'allais dire... la comédia dell'arte française.
Des deux côtés d'ailleurs.
Des deux côtés, c'est-à-dire que elle, pour elle, Macron, c'était un petit peu l'incarnation du boboïsme contre laquelle elle a gagné finalement les élections. Oui. Et côté Macron et toute la politique française, c'était vous allez voir, c'est comme si Marine Le Pen arrivait ici.
Le fascisme souriant.
Exactement. Donc il y avait une sorte de jeu. Dans la diplomatie qui faisait que c'était pas vraiment une diplomatie pour régler des sujets ou pour faire des alliances entre entreprises d'un point de vue stratégique, c'était beaucoup plus des déclarations extérieures qui s'adressaient aux électeurs internes. Mmh. Hein. Donc là, on en est sorti, c'est heureux, et je pense que la fâcherie qui a eu lieu entre Meloni et Trump a fait quelque chose, c'est-à-dire que Macron a bien joué pour le coup. Oui. Il l'a appelé de façon très solidaire en disant « écoute, on est désolé, tu vois bien que le type est un peu instable.
Oui. »
Je pense qu'on a des choses
après,
à faire.
Après, je rappelle que Donald Trump a dit qu'au G7, Giorgia Meloni y avait couru après pour faire un selfie.
Oui, c'est toujours,
évidemment,
c'est toujours un homme des grands actes.
Voilà. Vive le couple franco-italien, alors, Jean-Marc Daniel.
C'est un couple historique. Hein. On a fait les guerres en Italie, on parlait d'histoire et tout ça. Non, moi, alors là aussi, les trois choses, comme toujours la trois choses. La première chose, c'est que c'est quand même deux maisons droites, la France et l'Italie, et surtout l'Italie.
Oui,
et
donc, c'est des pays. Petit problème démographique des deux côtés des Alpes.
Sachant que l'Italie gère ça mieux, c'est-à-dire que l'Italie a un excédent de balance des paiements courants, donc l'Italie dégage de l'épargne, donc l'Italie est en train de se projeter.
Oui.
Avec, en ce moment, dans l'actualité, il y a le fait que UniCredit, qui est la principale banque italienne, va devenir le propriétaire, l'actionnaire privilégié de Commerzbank. Donc il y a une capacité de l'Italie à gérer son vieillissement au travers de son épargne que nous n'avons pas.
Oui.
La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, l'Italie, il y a deux Italies, mais l'Italie du Nord, c'est ce qu'on appelle le Corso Magenta. C'est-à-dire que le Corso Magenta, c'est de dire l'avenir de l'Italie, ce n'est pas l'industrie, parce que l'industrie va disparaître en Italie, même si la production industrielle est supérieure à celle de la France, comme dans le reste de l'Europe. Mais Corso Magenta, c'est quoi? c'est le lieu à Milan où se conçoit la mode. Mmh. Et c'est et Corso Magenta est en train de supplanter Paris en tant que l'avenue Montaigne, la rue du Faubourg Saint-Honoré, en tant que lieu de référence sur la créativité. Et donc l'Italie, c'est aussi un lieu de créativité, d'innovation, dans des domaines qui sont des domaines particulièrement porteurs. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est que l'Italie, c'était un pays très chrétien et tout ça. On parlait de Constantin, le chef de l'État, le dernier chef de l'État à ne pas avoir été chrétien, c'était l'empereur Julien, qui était un descendant de Constantin, jusqu'à Napolitano. Et l'Italie a eu le précédent président de la République qui n'était pas chrétien. Et les Italiens ont vécu comme étant leur entrée dans la modernité, le fait qu'on n'était pas obligé d'être catholique pour être président de la République en Italie. Donc c'est un pays qui est en train, là aussi, encore une fois, sur le plan culturel, de devenir un pays tout à fait moderne.
Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Laurent Moisson, je rappelle votre ouvrage, La France s'en va en guerre en oubliant ses munitions. Merci Jean-Marc Daniel, merci Ludovic de Sauté. Cette émission est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spéciale croissance. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.